Bienvenue dans Droit dans l'Immo, un podcast proposé par Lefèvre Dalloz.
Le futur PLUB de Paris a pour ambition de répondre à deux enjeux majeurs, celui du climat et celui du logement. C'est de ce dernier dont nous allons parler aujourd'hui. La ville de Paris souhaite promouvoir un modèle de ville solidaire et mixte. À cet effet, le futur PLUB comporte de nouvelles obligations en matière de logement. Les obligations de création de logements, notamment sociaux, vont ainsi être renforcées. Bonjour, je suis Laurence Guittard de la rédaction Lefèvre Dalloz. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Chloé, avocate associée, spécialisée en droit de l'urbanisme au sein du cabinet LPA, pour parler du futur plan local d'urbanisme de Paris. Bonjour Hélène.
Bonjour Laurence.
Alors Hélène, on connaît le PLUI intercommunal, le PLUH avec un volet habitat. Qu'est-ce que le PLUB ?
B comme bioclimatique, parce que la ville de Paris a pour ambition d'adapter la ville aux futurs enjeux climatiques.
Où en est-on de la procédure d'élaboration du PLUB ?
L'enquête publique vient de se terminer. Nous attendons maintenant le rapport de la commission d'enquête, qui a recueilli plusieurs milliers d'observations. Juste avant la clôture de l'enquête, on avait vu à peu près plus de 7000 observations sur le PLU quelques heures avant la clôture. Passé cette phase-là, donc, nous aurons le rapport qui nous donnera un avis sur ces observations. Et puis, nous attendons une approbation potentiellement fin d'année 2024, voire début 2025 si les délais ne sont pas décalés d'ici là.
Ce futur PLU, il semble avoir une forte connotation mixité sociale. Il y a une volonté d'intensifier la réalisation de logements sociaux. Quelles sont les nouvelles obligations en matière de logement social ?
Alors, les ambitions sont fortes, comme vous le soulignez. Il y a des nouvelles obligations qui sont évidemment plus restrictives, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des servitudes de mixité sociale qui sont déjà existantes en les renforçant, mais aussi créer plus de mixité, plus de logements sociaux, et créer également une nouvelle servitude de mixité fonctionnelle. Mais j'en parlerai après.
Alors concernant la servitude de mixité sociale, en quoi consiste-t-elle ?
La servitude de mixité sociale, c'est en fait l'idée de mixer dans un même immeuble des habitations et de l'habitation sociale. Donc on est sur un programme de réalisation de logements, que ce soit par extension, surélévation, changement de destination ou de sous-destination. Donc dès qu'on travaille sur un programme de logement qui va faire plus de 500 mètres carrés, on va devoir réserver un pourcentage de ces logements à du logement social, sachant que c'est une servitude qui existait déjà, mais le seuil était à 800 mètres carrés et il passe à 500 mètres carrés de travaux, donc travaux ou changement de destination d'habitation. Et le nombre de logements sociaux à prévoir dépend du secteur dans lequel l'immeuble se trouve et sera compris entre potentiellement 35 et 50% de logements sociaux. Et dans certaines zones, mais j'y reviendrai après, on sera sur du bail réel solidaire.
Et ça concerne tout le territoire ?
Oui, on a trois zones. Une zone non déficitaire en logement social qui concerne 30% peut-être de la ville de Paris. Le reste, donc plus de 60%, est réparti en deux zones, une zone déficitaire et une zone hyper déficitaire en logement social. Cette zone hyper déficitaire est nouvelle, elle n'existait pas dans le précédent PLU et elle imposera 50% de logements sociaux. Dans la zone déficitaire, qui existait déjà avant, on passe de 30 à 35%. Et dans la zone non déficitaire en logement social, on aura quand même les obligations de faire du BRS, bail réel et solidaire. L'hyperdéficitaire est en fait l'ouest de Paris, le centre, le 8e par exemple, arrondissement. Donc on sort les quartiers des 7e et 4e qui ne sont pas couverts par le PLUB, qui sont couverts eux par le PSMV, plan de sauvegarde et mise en valeur, qui sont des PLU spécifiques à ces quartiers-là parce que ce sont des quartiers historiques. Qui disposent donc d'un PLU spécial. Donc, ils ne sont pas concernés par ces obligations-là.
Il y a des exclusions ?
Oui, alors des exclusions, mais qui sont quand même pas très nombreuses. Évidemment, les programmes dans lesquels il y a déjà des logements sociaux existants sont exclus. ça va un peu de soi. Certains secteurs couverts par des périmètres d'OAP, c'est-à-dire d'orientation, d'aménagement et de programmation. Il y en a peu, mais c'est, enfin quelques-uns, mais c'est par exemple les secteurs de Bercy-Charenton ou de Saint-Vincent-de-Paul, donc quelques secteurs identifiés à Paris qui sont exclus parce qu'en réalité, les orientations comprennent elles-mêmes leurs propres obligations de logements sociaux. Et il y a ensuite une dernière exclusion, ce sont les secteurs concernés par ce qu'on appelle le pastillage, donc des emplacements réservés dont je parlerai plus tard.
Il y a aussi des dérogations.
Il y a deux dérogations principales. Bon, une qui concerne des secteurs spécifiques, enfin des périmètres spécifiques. Quand on est en ZAC ou en lotissement, on ne va pas apprécier ces obligations de logement social à l'échelle de l'immeuble, mais à l'échelle de l'opération, du périmètre de l'opération. La deuxième dérogation concerne le secteur de développement de l'habitation, parce que c'est un secteur qui va être concerné par une servitude, lui aussi, servitude de mixité fonctionnelle, et donc étant concerné par deux servitudes, le PLUB prévoit une souplesse qui autorise à remplacer les logements sociaux par des logements en BRS, bail réel solidaire.
Le deuxième type de contrainte, c'est la mixité fonctionnelle. Alors pour que tout le monde comprenne, la mixité fonctionnelle, c'est la diversité des fonctions, le mélange des destinations, habitat, commerce, bureau, équipement, service. En quoi elle consiste, cette contrainte ?
C'est nouveau. L'idée de mélanger les fonctions, c'est concrètement d'insérer de l'habitation dans des activités tertiaires, des immeubles de bureaux notamment. Ça concerne des surfaces déjà importantes. Hein. Il faut que le bâtiment, l'immeuble fasse plus de 4 500 m² de surface de plancher économique, donc soit sur une surface tertiaire de plus de 4 500 m². Et quand on rentre dans ces seuils, on devra laisser une part de 11% à l'habitation. Cette part ne devant pas représenter moins de 500 m². Et puis, sur ces 11%, il faudra appliquer le pourcentage de mixité sociale dont on a parlé tout à l'heure, donc en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, entre 35 et 50% de logement social.
Et c'est une servitude qui s'applique sur tout le territoire parisien ?
C'est dans le secteur de développement de l'habitation uniquement, mais il faut savoir que ce secteur de développement de l'habitation couvre une grande partie du territoire parisien.
Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à cette servitude de mixité fonctionnelle ?
Alors, il y a quelques cas d'exclusion qui sont prévus dans le PLUB. Donc, cela concerne les surfaces à rez-de-chaussée dans une bande de constructibilité, les surfaces au sous-sol, les surfaces démolies, certaines surfaces qui ont déjà été soumises à un changement d'usage, c'est-à-dire qu'on a déjà utilisé en fait les locaux pour les transformer d'habitation à bureau. Mais il y a surtout une nouveauté qui pourra être intéressante à utiliser, c'est la possibilité de compenser. C'est-à-dire qu'on pourra transformer de la surface économique qui existe dans le quartier, donc pas forcément dans l'immeuble, en habitation pour compenser cette obligation de création d'habitation dans l'immeuble.
Il y a une troisième catégorie, les emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements.
Oui, alors cette troisième catégorie, c'est celle dont on a le plus entendu parler ces derniers mois, c'est ce qu'on appelle le pastillage. Ça consiste en fait pour le PLUB à identifier sur les graphiques, sur des plans, des parcelles de terrain qui vont être grevées d'une servitude d'emplacement réservé pour faire du logement social essentiellement, mais pas que. Et c'est nouveau, le PLUB prévoit des emplacements réservés pour créer des équipements de santé, notamment des équipements petite enfance, des espaces réservés à de la logistique, notamment.
Et il y a beaucoup de pastilles ?
Alors, oui, nous avions dans le PLU actuel déjà des terrains qui étaient grevés de ces servitudes. Ça représentait à peu près 300 parcelles. Mais les servitudes portées sur des terrains appartenant à des personnes publiques la plupart du temps. La nouveauté, c'est qu'on a triplé ces emplacements réservés. On est à presque 1000 environ. Et surtout, ont été grevés de cette parcelle des terrains appartenant à des personnes privées et même des écoles privées et des entreprises.
Comment ils se matérialisent, ces emplacements réservés ?
Alors, ils sont donc sur les documents graphiques indiqués par la lettre LS, logement social, ou BRS, pour BRS, suivi de deux chiffres, par exemple 100 et 60, 100-60. Le premier chiffre concerne les surfaces qui sont concernées par la servitude et le deuxième concerne le pourcentage de logements qui devra être affecté au logement social. Donc, par exemple, si on a un chiffre 160, ça veut dire que 100% de la surface de la parcelle doit être affectée à l'habitation et 60% de cette surface doit être affectée au logement social. Les 40% restants ne pourront pas être en accession libre, ils devront être en BRS ou en logement locatif intermédiaire ou en logement locatif social. Lorsque le PLU vise une légende BRS, et pour reprendre le même exemple, BRS 160, ça veut dire que 100% de la surface doit être affectée à l'habitation, 60% doit être affectée en BRS, mais parmi ces 60, un quart peut être réalisé en logement locatif social ou en logement locatif intermédiaire, et les 40% restants, il n'y a aucune règle. Donc là, on peut faire du logement libre.
Qui dit emplacement réservé dit droit de délaissement et donc possibilité pour les propriétaires de demander à la ville d'acquérir le bien ?
Oui, en effet, c'est la mécanique propre à l'emplacement réservé hein, qui n'est pas propre à ce PLU, hein, qui existe en principe quand on est grevé par une servitude. On peut mettre en demeure la personne publique, donc là en l'occurrence la ville de Paris, d'acquérir notre parcelle. Alors c'est avancé comme un moyen de dédramatiser la servitude, mais le droit de délaissement, c'est rarement en pratique un moyen de céder sa parcelle de façon avantageuse. S'il y a un désaccord sur le prix, c'est le juge de l'expropriation qui tranchera. Et comme on est sur un intérêt public, donc qui est l'objet de la réserve, on est rarement sur des prix de marché.
À quel moment les propriétaires dont les biens sont grevés d'un emplacement réservé doivent-ils réaliser ce type de logement ?
Alors ça va être au moment où soit ils vendent, soit des gros travaux sont entrepris. Évidemment, le fait d'être pastillé, si on ne change rien ou si on fait juste des petits travaux d'entretien, il n'y a pas de difficulté. Mais l'obligation de mettre en œuvre la réserve et donc de faire des logements se déclenchera à l'occasion d'un permis de construire, de restructuration un peu lourde, après peut-être de certaines déclarations préalables, donc des travaux moins importants mais qui engageraient un changement de destination sur certaines parties. Voilà, la solution miracle n'est pas de se dire, par exemple, comme on voit de temps en temps, de faire de simples déclarations préalables en espérant échapper. Ça dépend vraiment de la nature des travaux qui vont être entrepris. Mais tant qu'on ne bouge pas, il ne se passe rien.
Merci beaucoup Hélène.
Merci Laurence.
Depuis tout à l'heure, on parle de logement social. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par logement social. Et nous allons voir que le PLUB de Paris ne retient pas la même définition du logement social que le Code de la construction et de l'habitation. Mais ça, ce sera l'objet d'un second podcast, dans lequel Sidonie Fraîche du Péra nous expliquera quels sont les montages contractuels possibles pour les opérateurs privés.